Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La désobéissance civile est un bref essai politique de Henri David Thoreau, issu d'une conférence publiée d'abord sous le titre « Résistance au gouvernement civil », puis repris après la mort de l'auteur sous son titre le plus célèbre. Le texte prend pour point de départ le refus de Thoreau de payer un impôt local en 1846. Ce refus visait sa participation indirecte à deux politiques qu'il jugeait injustes, l'esclavage et la guerre menée par les États-Unis contre le Mexique. Mais l'ouvrage dépasse largement cet épisode personnel. Il examine jusqu'où un citoyen doit obéir à un État lorsque ses lois contredisent sa conscience morale. Thoreau y défend une exigence radicale, ne pas coopérer avec l'injustice, même lorsque cette non-coopération comporte un coût légal ou social. À la frontière de la philosophie politique, de l'éthique et du pamphlet, ce texte fondateur a durablement nourri les réflexions sur l'objection de conscience. Premièrement, la conscience individuelle comme limite à l'obéissance politique, le point central de l'essai est la priorité accordée au jugement moral de l'individu. Thoreau ne soutient pas qu'il faille rejeter toute règle commune, ni que chacun puisse se soustraire à la loi selon son intérêt. Son objection porte sur la collaboration effective à une injustice reconnue comme telle. Un citoyen qui désapprouve abstraitement une politique, mais continue à lui fournir argent, travail ou assentiment, reste selon lui impliqué dans ses effets. Cette idée déplace le débat de la simple opinion vers la responsabilité. Voter contre une mesure injuste peut exprimer une préférence, mais ne met pas nécessairement fin à la participation de celui qui la condamne. Thoreau demande donc une cohérence plus exigeante entre conviction et conduite. Sa position relève d'une morale de la non-complicité, particulièrement visible dans sa dénonciation de l'esclavage. Elle fait aussi apparaître une tension durable des démocraties libérales. Les institutions réclament l'obéissance afin d'assurer la stabilité collective, alors que la conscience impose parfois de refuser cette obéissance. L'essai ne propose pas une solution administrative à cette tension. Il affirme plutôt que l'ordre ne mérite pas d'être préservé lorsqu'il repose sur une faute grave que les citoyens ont les moyens de ne plus soutenir. Deuxièmement, le refus de l'impôt comme retrait concret de la coopération avec l'État, l'épisode fiscal n'a pas dans le texte la valeur d'une anecdote pittoresque. Il sert à préciser la forme pratique que peut prendre le refus de coopération. Thoreau estime que l'impôt versé à un État engagé dans l'esclavage et dans une guerre injuste fait du contribuable un soutien matériel, même minime, de ses politiques. Son geste est donc ciblé, il ne prétend pas abolir seul le système, mais refuse de lui apporter son concours. L'arrestation qui s'ensuit, puis la nuit passée en prison, donne une portée visible à cette décision. Le fait qu'une tierce personne règle finalement la somme contre son gré souligne son intention, il ne recherchait ni un arrangement ni une simple protestation symbolique. Ce passage distingue l'essai d'un traité théorique sur l'État. La réflexion est éprouvée par une situation où l'auteur accepte des conséquences personnelles pour aligner ses actes sur son jugement. Il faut toutefois lire cet exemple à son échelle historique. Thoreau ne fournit pas une règle automatique selon laquelle tout impôt deviendrait illégitime en présence d'une politique contestable. Il interroge plutôt le seuil à partir duquel les ressources fournies par le citoyen font de lui le complice d'un mal politique manifeste. Troisièmement, une critique de la majorité quand le vote remplace le jugement de justice, Thoreau conteste l'idée que la décision majoritaire suffise à rendre une politique juste. La majorité peut décider parce qu'elle est numériquement plus forte, non parce qu'elle possède une compréhension supérieure du vrai ou du juste. Cette distinction est essentielle dans un contexte où des institutions légalement constituées toléraient l'esclavage. Pour l'auteur, confondre légalité, nombre et justice revient à donner à la procédure une autorité morale qu'elle ne détient pas nécessairement. Le vote est alors présenté comme un instrument limité. Il permet d'exprimer une préférence, mais il risque de transformer une question de conscience en calcul de probabilité et de déléguer la responsabilité individuelle à la masse. Thoreau ne développe pas un programme institutionnel complet de remplacement de la démocratie représentative. Sa cible est plutôt la passivité, qui consiste à attendre qu'une majorité change d'avis tout en continuant de participer à ce que l'on réprouve. Il valorise la minorité qui cesse d'apporter son poids à l'injustice. Cette minorité n'est pas définie par son nombre, mais par sa capacité à rendre perceptible un conflit moral que les mécanismes ordinaires dissimulent. L'essai oblige ainsi à distinguer le respect des procédures démocratiques de l'acceptation inconditionnelle de tous leurs résultats. Quatrièmement, la prison comme révélateur de la liberté morale et des limites de la contrainte, la courte incarcération de Thoreau joue un rôle philosophique précis. Elle inverse le rapport habituel entre citoyens libres et détenus. Lorsque l'État emprisonne ceux qui refusent de coopérer avec une injustice, la prison peut devenir, selon la logique de l'essai, le lieu le plus cohérent pour une personne juste. L'affirmation est provocatrice, mais elle ne glorifie pas la souffrance ni l'illégalité pour elle-même. elle vise à montrer que la puissance coercitive de l'État atteint le corps, les biens ou la situation sociale, sans pouvoir contraindre pleinement le jugement moral. Accepter une sanction peut donc rendre public le coût réel de l'obéissance et de la désobéissance. Cette dimension explique l'influence ultérieure du texte sur les pratiques de résistance non violente. La sanction subie ne prouve pas automatiquement la justesse d'une cause, mais elle manifeste que l'auteur de l'acte ne cherche pas à échapper secrètement à la règle dont il conteste la légitimité. Chez Thoreau, la prison expose aussi la faiblesse d'un pouvoir qui repose sur l'obéissance routinière de ses administrés. Dès lors que certains cessent de coopérer, l'État doit révéler sa dépendance à la contrainte. Le texte fait de cette révélation un enjeu politique autant qu'éthique. En dernier lieu, du geste solitaire à la possibilité d'une pression collective non coopérative, la désobéissance civile part d'un refus individuel, ce qui rapproche Thoreau de l'objection de conscience. Pourtant, le texte ne s'enferme pas dans une morale privée. Il envisage ce qui se produirait si de nombreux citoyens refusaient simultanément de financer ou de soutenir une politique injuste. Une minorité cesse alors d'être une opinion isolée et devient une force de perturbation susceptible de contraindre l'État à choisir entre la répression généralisée et l'abandon de la politique contestée. Cette ouverture a contribué à faire de l'essai une référence majeure pour les mouvements de résistance civile. Elle doit néanmoins être interprétée avec précision. Thoreau insiste davantage sur le retrait de la coopération que sur une stratégie détaillée d'organisation, de négociation ou de mobilisation. Il n'élabore pas non plus les principes qui encadreront plus tard la non-violence chez Gandhi ou Martin Luther King. Sa contribution spécifique réside dans le lien établi entre intégrité personnelle et levier collectif. Une action commune n'est légitime que si elle ne réduit pas les participants à un instrument et si elle reste orientée vers la fin d'une injustice déterminée. Le texte conserve ainsi une portée actuelle, non comme manuel prêt à l'emploi, mais comme critère exigeant pour évaluer les formes de protestation et leurs responsabilités. En conclusion, la désobéissance civile s'adresse d'abord aux lecteurs de philosophie politique, d'histoire des idées et de littérature américaine qui veulent comprendre une source décisive des débats modernes sur la résistance à l'État. Elle intéressera également les personnes engagées dans les questions de droit civique, de guerre, de justice sociale ou d'environnement, à condition de ne pas y chercher un guide juridique ou tactique complet. Son bénéfice intellectuel est de rendre impossible une séparation confortable entre opinion privée et participation concrète aux institutions. Thoreau oblige le lecteur à demander ce qu'il soutient par ses habitudes, ses ressources et son silence, et à quel moment la loyauté civique devient complicité. Le livre se distingue des ouvrages contemporains sur l'action militante par sa brièveté, son ancrage autobiographique et son refus de dissocier l'éthique de l'acte. Là où de nombreuses théories ultérieures définissent des conditions de publicité, de proportionnalité, de non-violence ou d'efficacité. Thoreau pose d'abord une question plus élémentaire, peut en demeurer juste tout en servant une injustice reconnue. Cette radicalité est sa force et sa limite. Elle stimule une réflexion ferme sur la responsabilité individuelle, mais laisse ouvertes les difficultés de l'action collective et du pluralisme démocratique. Lu avec son contexte historique, l'essai reste une référence dense pour penser la légitimité du refus. Si vous souhaitez soutenir Henri David Thoreau, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.